Il est 6h sur Europe 1.
Europe 1, bonjour.
Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
Donald Trump face à un tribunal américain mardi prochain. L'ancien président américain fera face à la justice pénale. C'est une première dans l'histoire des États-Unis. Il dénonce une persécution. On retrouvera la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis dans un instant. Qui pour remplacer Philippe Martinez à la tête de la CGT? On va connaître l'élu ce matin, homme ou femme. Et le scrutin pourrait réserver des surprises après un congrès agité cette semaine. Et puis la tarification progressive de l'eau, voilà l'une des mesures phares du nouveau plan du gouvernement pour mieux gérer la ressource en eau. Reportage à suivre dans une commune pionnière en la matière. Le journal de 6h sur Europe 1. Romain Nequet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Donald Trump placé en état d'arrestation. C'est ce qui attend l'ancien président américain. A priori, mardi prochain, il doit comparaître face à un tribunal de Manhattan. Et s'il est présent, l'image fera le tour du monde, car c'est une première dans l'histoire des États-Unis.
Effectivement, on l'a appris tard hier soir. L'ex-président américain est inculpé dans une affaire avec une actrice de film pornographique.
Oui, il aurait acheté son silence en 2007, juste avant l'élection présidentielle. Une persécution, dénonce Donald Trump. Anne Toulouse, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Cette inculpation, c'est tout simplement inédit.
Oui, c'est un événement historique car c'est la première fois qu'un président des États-Unis est inculpé et cela pose beaucoup de questions. D'abord logistique, en tant que président, Donald Trump doit être sous la protection constante des services secrets. Ils devront donc l'accompagner pendant tout le rituel de l'arrestation qui consiste à prendre ses empreintes, peut-être sa photo. La question des menottes fait partie des négociations entre l'entourage du procureur et celui du président. Cela devrait être réglé d'ici mardi prochain lorsque Donald Trump se présentera au tribunal de son plein gré, à moins qu'il décide d'y être traîné par la police. Ce n'est que lorsqu'il comparaîtra devant le juge que l'on connaîtra le fond d'une affaire qui a commencé en 2016 par l'achat du silence d'une actrice porno prête à vendre le récit de ses ébats avec Donald Trump. Y a-t-il eu davantage qu'un faux en écriture pour camoufler le paiement ? Donald Trump plaidera non coupable et devrait repartir libre entre ses avocats jusqu'au procès. Il souhaite vraisemblablement la présence des caméras pendant toute la procédure. Cela fait partie de la pression qu'il fait monter à la fois sur le monde politique et sur ses supporters.
Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.
Au Vatican, à présent, la santé du pape François s'améliore.
Oui, l'homme de 86 ans vient de passer une deuxième nuit à l'hôpital, mais il va mieux, indiquent ses médecins. Le pape François reçoit un traitement pour une bronchite infectieuse. Il devrait sortir de l'hôpital dans les prochains jours. En attendant, à Rome, les fidèles prient pour son rétablissement, comme dans cette église française où s'est rendu le correspondant d'Europe 1, Antonino Gallofaro.
Quelques fidèles arrivent à Saint-Louis-des-Français dans le cœur de Rome. À 3 jours du début de la Semaine Sainte, leurs prières vont naturellement au pape hospitalisé, Inès et Jean-Baptiste.
On était à son audience et le fait de savoir qu'il a été hospitalisé dans la foulée, ça nous a fait quelque chose. On espère qu'il se rétablira et on connaît son âge, donc on sait que bon, ça nous touche.
On vit avec le pape en ce moment cette difficulté. Enfin, on espère tous qu'il va se rétablir.
Ces fêtes de Pâques à Rome pourraient être particulières, elles pourraient être célébrées en l'absence du pape. Les fidèles sont pris de court, Jean-Baptiste, Inès et Daniel.
Pâques sans pape, c'est vrai que c'est difficile de vivre une semaine pascale peut-être sans lui.
On verra comment ça se passe, on espère que cette semaine particulière où beaucoup de chrétiens seront ensemble autour de la foi va lui permettre de guérir.
Je pense qu'il vit la semaine sainte à sa façon, et là où il est, et en lien avec tous les chrétiens du monde.
François ne sortira pas de l'hôpital avant quelques jours, il ne pourra donc vraisemblablement pas célébrer la messe des Rameaux dimanche. Rome, Antonino Gallofaro, Europe 1.
6h03 sur Europe 1, c'est un choix qui sera déterminant dans la fronde contre la réforme des retraites. Qui pour succéder à Philippe Martinez? On connaîtra son nom ce matin à 10h à l'issue du congrès du syndicat, le 53e qui a démarré lundi à Clermont-Ferrand. Et Philippe Martinez a une favorite, elle s'appelle Marie Buisson. D'ailleurs, son élection ne devait être qu'une formalité. Sauf que finalement, dans les allées, son nom ne fait pas vraiment l'unanimité. Le reportage du correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Bougeon.
On pensait qu'elle avait un boulevard devant elle. Marie Buisson, enseignante en lycée professionnel, est la candidate de Philippe Martinez. Et ses partisans, comme Samira Saïdoun, déléguée en Isère, soulignent les nouvelles valeurs qu'elle incarne au sein de la CGT.
Pour nous, il n'y a pas de lutte sociale sans lutte environnementale. C'est ce qu'elle porte aussi. Je suis plutôt en adéquation avec ça. On a besoin aussi de faire plus de place aux femmes au sein de la CGT. Une candidature femme au bout de 127 ans, ça me semble pertinent.
Le problème, c'est que les gros bastions de la CGT, comme l'énergie ou la chimie, ne veulent pas de Marie Buisson, trop modérée aux yeux d'Emmanuel Emmanuel Lépine de la Fédération des industries chimiques.
Aujourd'hui, on constate une CGT qui est devenue deuxième organisation, qui perd du terrain, y compris en syndicalisation, et puis qui a montré une faiblesse, notamment face au relais intersyndical, qui en fait est une caisse de résonance pour la seule CFDT, Laurent Berger. Je pense qu'il faut repartir vers une CGT qui est combattante, à l'image de ce qui se passe dans le pays aujourd'hui.
Du coup, face à Marie Buisson, il pourrait y avoir un ticket radical entre une femme, Céline Verzelletti, et Olivier Matteux, le bouillant cégétiste marseillais, celui qui avait déclaré vouloir mettre l'économie de la France à genoux.
Le reportage de Jean-Luc Bourgeon, correspondant d'Europe 1 à Clermont-Ferrand. A noter que les syndicats ont rendez-vous mercredi à Matignon et dans le bureau d'Elisabeth Borne, ils auront un objectif, obtenir des concessions sur la réforme des retraites avant jeudi, la 11e journée d'action contre le texte.
Des manifestants, il y en avait 200 hier à Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes, un comité d'accueil pour la visite d'Emmanuel Macron venu parler gestion de l'eau, une ressource de plus en plus menacée par la sécheresse et le réchauffement climatique.
Oui, changer de sujet pour s'extirper de la bataille sur les retraites, c'est la stratégie de l'exécutif. Le chef de l'État a donc présenté 53 mesures pour limiter, rationaliser notre usage de l'eau. Et parmi elles, la généralisation du tarif progressif. En clair, plus vous consommez, plus le mètre cube sera cher. Un dispositif qui existe déjà dans plusieurs villes de France, comme Montpellier et aussi Dunkerque, Guillaume Dominguez.
Oui, c'est la première ville à avoir adopté cette mesure en 2013. Bertrand Ringot, vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque, nous explique son fonctionnement.
On a mis en place donc trois tarifications. Une première de 0 à 80 mètres cubes, une deuxième de 80 à 200 mètres cubes et une tarification au-delà de 200 mètres cubes. Sur 10 ans à Dunkerque, on est passé d'une consommation moyenne de plus de 80 mètres cubes par foyer chaque année à aujourd'hui 67 mètres cubes. Donc ça vous fait 70 euros d'économie.
Étendre cette mesure à l'échelle nationale, pourquoi pas? Mais à certaines conditions, selon Esther Delbourg, économiste de l'eau.
Déjà, c'est une mesure par foyer. Or, évidemment, il faut regarder ça par personne, parce qu'un foyer de 5 personnes consomme plus qu'un foyer d'une personne. Il faut faire attention aux revenus. Comment va-t-on faire si une famille qui gagne moins paye plus cher son eau?
Une tarification progressive qui pourrait également s'appliquer aux entreprises responsables en France de 80% de la consommation d'eau.
Guillaume Dominguez pour Europe 1.
La France était l'un des derniers pays au monde à appliquer cette mesure polémique. La vaccination anti-Covid obligatoire pour les soignants, eh bien c'est fini.
Oui, c'est une recommandation de la Haute Autorité de Santé que le gouvernement promet de suivre rapidement. Les non-vaccinés sont suspendus depuis un an et demi. 0,3% du personnel, à peu près quelques milliers de soignants qui pourront donc retrouver leur poste à l'hôpital, sauf s'ils ont changé de métier depuis. 6h07, les sports à présent sur Europe 1. Et d'abord, une douche froide pour les clubs de foot féminins en Ligue des Champions. Aucune équipe française n'atteindra donc les demi-finales. Et ce n'était pas arrivé depuis 9 ans. Lyon, tenant du titre quand même, a été éliminé hier soir par Chelsea. Et Paris, battu par Wolfsburg.
Bah, du côté de l'équipe de France féminine, on prépare le bureau du nouveau coach.
Oui, Hervé Renard, officiellement sélectionneur des Bleus. Nomination actée hier. Premier test, le 7 avril, dans une semaine, en match amical face à la Colombie. Tiens, et d'ailleurs, si vous aimez le foot, chez les garçons, cette fois, ne manquez pas Europe 1 Sport ce soir. Marseille-Montpellier en direct pour la 29e journée de Ligue 1.
Europe 1 Sport qui recevait hier soir le patron du tennis français.
Gilles Moreton, le président de la Fédération française de tennis, face à Céline Giraud et Jacques Vendroux. La FFT est visée par plusieurs plaintes pour corruption et détournement de biens. Le parquet national financier mène d'ailleurs une enquête. Et Gilles Moreton ne compte pas se laisser faire.
Je me suis exprimé pour ceux qui veulent savoir, c'est donner les documents, une transparence totale. Là, il y a un dossier sur le détournement de fonds publics et de corruption, bah venez voir. Il y a eu une commission de justice fédérale. On va attendre de voir ce qui se passe. D'abord parce que le parquet a été saisi, voir ce que le parquet va décider. Puis derrière, bien évidemment, nous avons des réponses à toutes ces questions-là. Pour l'instant, le seul objectif, au travers de ces différentes affaires, c'est porter préjudice. Et ce qui me gêne plus, ce n'est pas tellement pour moi personnellement, mais aujourd'hui, c'est le tennis et c'est tous les dirigeants français qui sont salis quand on m'attaque comme ça, c'est tous les dirigeants français.
Gilles Moreton, le président de la Fédération française de tennis, qui était l'invité d'Europe 1 Sport hier soir.